Avec Donald Trump, avec Angela Merkel dans des registres tout à fait différents, on a reparlé d'une armée européenne. Bonjour Elie Tenenbaum, vous êtes chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI. Il faut tout d'abord rappeler ce qu'est ce serpent de mer, une armée européenne.
Oui, alors l'armée européenne, c'est effectivement une vieille lune des questions de défense, puisque dès 1954, on se souvient que la communauté européenne de défense était un projet qui avait été rejeté d'ailleurs par la France. Depuis, il en est régulièrement question. Emmanuel Macron s'est engagé fortement dès son élection et après son élection. On se souvient du discours de la Sorbonne en septembre 2017, dans lequel il appelait à cette armée européenne. Et puis évidemment, dans le cadre des commémorations du centenaire, il était symbolique de parler d'armée européenne comme horizon, comme vision, voilà, 100 ans après la Grande Guerre.
Justement, au sujet donc de ces différentes armées, l'armée allemande, les armées avec lesquelles on pourrait s'allier, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous dresser un tableau, Elie Tenenbaum?
Ouais, je pense qu'il est tout d'abord important de rappeler qu'il ne s'agit pas, et aucun des ministères de la Défense impliqués n'envisage aujourd'hui à court ou moyen terme de fusion des appareils, de la hiérarchie pour une armée européenne qui soit unique. Il s'agit effectivement aujourd'hui de favoriser la coopération entre les armées de défense, entre les armées d'Europe, et notamment entre 10 pays, hein, effectivement la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, quelques pays volontaires qui ont des moyens, mais des moyens qui vont être disparates parce que derrière il y a des choix politiques et une culture stratégique, comme le disait Emmanuel Macron d'ailleurs, et un rapport à la force qui est très différent.
Présentez-nous ces moyens, Elie Tenenbaum, quels sont-ils aujourd'hui et quelles sont les forces en présence?
Eh bien, vous avez d'une part la France et la Grande-Bretagne qui sont des armées anciennement coloniales, qui ont conservé une culture d'intervention, d'opérations extérieures, qui sont aussi des armées avec une puissance nucléaire. Et puis vous avez l'Allemagne et derrière un certain nombre de pays d'Europe de l'Est qui sont pas dans une logique d'emploi, qui sont dans une logique de protection de la défense collective européenne plutôt face à une menace venant de l'Est. Et finalement, on a là au moins deux cultures stratégiques qui sont quand même fondamentalement différentes. Et derrière, vous avez des choix capacitaires, des choix en termes d'équipement qui vont aussi varier.
Hier soir, il y avait l'interview d'Emmanuel Macron, donc depuis le Charles de Gaulle. Il a rappelé que la France était le seul pays au monde avec les États-Unis à avoir un porte-avions nucléaire. Alors par exemple, cette arme-là, est-ce qu'elle aurait vocation à rejoindre un arsenal européen ?
Écoutez, aujourd'hui, les armées nationales demeurent le précaré de la souveraineté des pays. Et on ne conçoit pas que la France mette le Charles de Gaulle sous la tutelle d'une chaîne de commandement européenne. Si le président de la République demain veut envoyer le Charles de Gaulle dans telle ou telle région du monde, il doit pouvoir le faire sous très court préavis et sous aucune demande. Maintenant,
alors qu'est-ce qu'on mettrait dans ce cas-là sous tutelle européenne?
Il n'y a pas de tutelle européenne qui soit envisagée aujourd'hui. Il y a une coopération. L'idée de dire que avec un certain nombre de pays, on s'entraîne, on partage de l'information, on soit interopérable, comme on dit chez les militaires. C'est-à-dire que voilà, tout ce qu'on veut faire ensemble, on peut le faire ensemble. On ne se retrouve pas à la dernière minute en disant « Ah ben non, on n'est pas compatible ». Mais il ne s'agit pas d'abandon de souveraineté dans l'immédiat.
Donc c'est une armée européenne qui n'a toujours pas de téléphone unique, pour reprendre le terme de Kissinger.
Absolument pas. Non. On est aujourd'hui véritablement dans ce qu'on appelle des coopérations structurées permanentes, enfin des termes complexes qui sont poussés à l'initiative de l'Union européenne. Il y a un fonds de défense européen qui a été mis en place, etc. Mais on est quand même aujourd'hui sur des coopérations et de la mise en commun qui est extrêmement limitée, qui vise à optimiser plus qu'à créer du neuf.
Mais alors c'est pourtant dommage parce qu'on voit bien quel intérêt, notamment financier, stratégique, il pourrait y avoir à se doter d'une armée européenne élite.
Bien sûr, il y a un enjeu qui est bien connu des économies d'échelle qu'on pourrait faire. Alors pour l'instant, ça se concentre sur des programmes d'armement. On a le programme d'armement de l'avion futur, du système de combat aérien futur qui doit être fait en franco-allemand, un char de combat du futur qui doit être fait en franco-allemand. également, peut-être avec d'autres pays, mais pour l'instant, ces grands projets d'armement, même s'il s'agit juste de l'équipement, on se heurte quand même, même là-dessus, finalement, à des divergences de culture, encore une fois, parce que vous n'allez pas avoir le même char si vous voulez aller combattre dans le Sahel ou si vous voulez aller arrêter les Russes voilà, dans les plaines d'Europe centrale.
Bien entendu, mais alors, là aussi, il y a de plus en plus d'armements que ces armées européennes vont avoir du mal à s'offrir. On a parlé du porte-avions, et d'ailleurs hier, Emmanuel Macron a été interrogé pour savoir si la France allait se doter d'autres porte-avions. Il a un peu botté en touche, il a dit qu'on en reparlerait dans 18 mois. Est-ce qu'il y a d'autres armes importantes à vos yeux, Edith Tenenbaum, qui aujourd'hui ne seraient pas à la portée des armées européennes ?
Écoutez, d'autres armes, il y a un retard européen énorme sur la question des drones, par exemple, depuis longtemps, et il y a un projet d'un eurodrone qui est en cours. Donc, si les armées européennes c'est pas tant les armées d'ailleurs que les agences de défense et d'équipement européennes qui se mettent ensemble, qui arrive à définir des objectifs, des spécificités communes, on peut effectivement imaginer des projets qui réussissent. Mais il faut se mettre d'accord avant.
Merci Edith Tenenbaum. Je rappelle l'un de vos livres, Partisans et Centurions, une histoire de la guerre irrégulière au XXe siècle. C'est publié aux éditions Perrin. C'est très intéressant. 7h20 sur France Culture.